sources de conférences de loi humaine, avec un temps variable, on va dire. Et merci surtout à M. Loesch d'avoir eu la gentillesse d'accepter de nous faire cette conférence donc sur les Juifs pendant la guerre, qu'il avait fait au Centre Michelet. Je vous rappelle que nous avons avec le Centre Michelet d'excellentes relations et qu'en principe, ils sont plutôt spécialisés dans l'histoire très moderne, très contemporaine, si vous voulez. Alors que nous, nous sommes censés plutôt nous spécialiser dans l'histoire dite ancienne ou moderne, c'est-à-dire jusqu'en, on va dire jusqu'en 1900, à peu près. Voilà, et donc nous avons un petit peu dépassé nos attributions, et je remercie M. Lech d'avoir accepté donc de nous faire cette conférence très moderne, si on peut dire, très contemporaine. Voilà, je passe la parole.
Merci Madame Guéli. Oui, donc merci d'être venu une nouvelle fois nombreux. Je me demandais s'il y aurait du monde parce que en fait cette conférence je l'ai déjà faite deux fois. La première fois c'était au mois de janvier à la demande du Centre Michelet, mais comme le Centre Michelet est un endroit assez contraint, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas pu assister, qui étaient un peu vexé, et donc on l'avait redonné une nouvelle fois en février, cette fois-ci donc dans la salle La Binche. Voilà pourquoi il y a marqué 27 février, parce que c'était la deuxième, et je viens de m'apercevoir, j'ai oublié d'actualiser, nous sommes bien le mardi 28 mai, mais enfin voilà. Et donc merci d'être encore là pour m'écouter sur cette conférence sur les Juifs en correspondant à la Seconde Guerre mondiale. Je dois, moi, évidemment, remercier grandement la Société historique, avec Madame Guéli et puis Madame Aznar également, de m'avoir proposé de vous présenter cette conférence. En fait, si vous voulez, il s'agit de faire un focus sur une histoire assez particulière et encore pas totalement connue, c'est-à-dire celle de la présence des Juifs dans notre département au moment de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, j'y ai travaillé un peu en lien avec le livre sur l'histoire de la Corrèze. Et puis également, j'avais commencé en fait à travailler un petit peu sur cette question en 2006, spécifiquement sur Beaulieu. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis de Beaulieu, parce qu'à cette époque-là, il y avait une cérémonie, je vais en reparler, où on avait redécouvert le fait qu'il y avait une importante colonie d'enfants juifs pendant la guerre, et c'était un fait totalement oublié, et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à cette question, et puis évidemment, en travaillant sur l'ensemble de la Corrèze, je me suis un petit peu élargi à cette connaissance sur le département. Voilà. Malheureusement, si je puis dire, cette histoire est aussi une histoire que l'actualité, on va dire, brûlante de cet hiver nous a rappelé, parce que quand on voit, par exemple, les portraits de Simone Veil tagués, les cimetières juifs profanés, Alain Finkielkraut insulté du fait d'être juif, etc. Malheureusement, l'arbre de Ilan Halimi qui a été sectionné. On voit qu'il y a là toujours la nécessité de rappeler sans cesse ces faits passés, particulièrement le fait que l'antisémitisme a été porté en Europe par les nazis et très largement relayé par certains Français également, même si pendant longtemps, là aussi, on avait du mal à accepter cette idée. Il s'agit donc, si vous voulez, de faire œuvre, j'ai envie de dire, de pédagogie historique, en sachant que l'histoire ne juge pas, les profs d'histoire savent bien ça, les historiens aussi, l'histoire, elle narre, elle analyse, et elle essaie d'interpréter les événements du passé au plus près de la réalité, et ensuite, c'est à chaque citoyen de s'en emparer, en conscience et de transformer ces données historiques en données morales pour ses propres pensées et ses propres actes. Voilà, donc que chacun s'empare de cette question. Je vous propose de faire une présentation donc en trois temps. D'abord, on va faire un point sur l'historiographie, c'est-à-dire comment on a abordé cette question des Juifs, particulièrement en Corrèze, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, quelles évolutions sur ce regard. Ensuite, on verra que la Corrèze a été un lieu de refuge, ça c'est assez connu maintenant, mais aussi un lieu de contrôle et même un lieu d'internement pour certains juifs. Et on verra que dans la deuxième partie de la guerre, particulièrement à partir de l'été 1942, la Corrèze, pour certains juifs, va se transformer en véritable piège, mais qu'en même temps, il y aura un nombre important de sauvetages. Voilà un peu l'architecture que je vous propose. Donc tout d'abord, un point sur l'historiographie. Je vais rappeler d'abord quelques généralités sur la connaissance de la situation des Juifs pendant la guerre au niveau national. Je ne vais pas être exhaustif, je vais être, ça va être juste pour rappeler quelques jalons. Les profs d'histoire connaissent ça par cœur, s'il y en a, ils m'excuseront, Roselyne par exemple. Enfin, voilà. D'abord, il faut avoir à l'esprit que les Juifs ont longtemps été peu identifiés en tant que tels dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment les Juifs qui avaient été déportés et qui sont revenus des camps, ils ont été mêlés avec les autres déportés et on ne reconnaissait pas spécifiquement leur déportation en tant que Juifs. D'autre part, les rescapés juifs étaient très peu nombreux, puisqu'on sait que sur environ 76 000 Juifs déportés, seulement 2500 sont revenus vivants des camps. Donc leur voix était mêlée à un nombre bien plus important de déportés qui étaient des otages ou des résistants, et elle était finalement mélangée avec les autres, et elle ne portait pas spécifiquement, d'autant plus que ce qu'ils avaient à raconter était totalement indicible. Et bien souvent, ils se heurtaient à une forme d'incompréhension où on pouvait facilement les accuser d'exagérer la situation. La preuve, c'est qu'ils étaient revenus vivants, alors ce n'était pas si terrible. Et donc forcément, beaucoup de personnes juives ont fini par se taire. Ils se sont tués, ils ont refermé la boîte et ils ont essayé de vivre avec ça comme ils le pouvaient. Et puis certains juifs ne voulaient pas non plus eux-mêmes se dissocier de la communauté nationale après la guerre et donc ils préféraient ne pas insister sur leur sort particulier. En même temps, il faut bien avoir à l'idée qu'à la fin de la guerre, la mémoire qui est valorisée, c'est la mémoire victorieuse, c'est-à-dire la mémoire des résistants, à la fois par les gaullistes d'un côté et par les communistes de l'autre. C'est ce que l'historien Henri Rousseau appelle le résistentialisme. On voulait à tout prix montrer que la France avait été du côté des vainqueurs et que finalement les Français étaient des résistants. Bien sûr, il y avait quelques égarés de Vichy, mais enfin c'était quantité négligeable et puis c'était des pauvres fous. C'est ce que Henri Rousseau appelle le syndrome de Vichy. Donc en même temps, on valorise la mémoire des résistants et puis tout le reste, on le met dans une boîte et on n'en parle plus. Voilà. Les changements notables vont intervenir en gros entre les années 60 et les années 80. Je vous ai mis ici quelques documents qui montrent ces jalons. Changement d'abord sur la collaboration et l'antisémitisme en France. Un des événements phares, c'est 1971, la sortie d'un film, film de Marcel Ophuls, qui s'appelle « Le chagrin et la pitié », et qui, pour une des toutes premières fois, explique, en prenant le cas de Clermont-Ferrand, qu'une partie des Français avait versé dans la collaboration et dans l'antisémitisme, ce qui, évidemment, a pu paraître comme un choc à l'époque. Juste après 1972, on est sous la présidence Pompidou, le scandale créé par la grâce accordée à Paul Touvier. Voilà. Là aussi, ça remue un petit peu les consciences. Alors, il sera rattrapé plus tard, et on finira par lui faire un procès. Il y a aussi, dans les années 80, le procès Barbie, qui va rappeler notamment le drame des enfants de Dizieux, qui ont été déportés par sa faute. Et puis, le grand dernier procès français en date, c'était le procès Papon en 1997. Et puis, les années 70 toujours, 1973, un livre, là c'est la deuxième image, c'est la traduction en français du livre d'un historien anglo-saxon, donc Robert Paxton, et il s'appelle « La France de Vichy ». Et il est le premier véritablement à expliquer que pendant la guerre, il y a eu une répression autonome des Juifs par le régime de Vichy, et que ce n'était pas donc totalement les Allemands qui exigeaient que l'on arrête des Juifs ou qu'on les exclue de la communauté nationale. J'y reviendrai évidemment un peu plus loin. Donc voilà comment est-ce qu'on a débloqué, si vous voulez, la question de la collaboration de l'antisémitisme en France. Pour ce qui est de l'extermination des Juifs de manière spécifique, là on a plusieurs éléments qui commencent dès les années 60. J'ai mis la photo, c'est la troisième photo ici, 1961, le célèbre procès Eichmann, qui a été réalisé en Israël, procès très médiatisé avec des dizaines et des dizaines de témoins qui se sont succédés. Et là, ça a été un tournant pour présenter ce qu'a été l'extermination spécifique des Juifs. Puis ensuite, 1964, dans la loi française est inscrite l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on pourra continuer à poursuivre les nazis et leurs complices français jusqu'à leur mort. Il n'y aura pas de limite de prescription, contrairement aux crimes, entre guillemets, plus traditionnels, si on peut parler comme ça. Troisième élément, alors un peu plus complexe, mais 1967, lié à un événement de politique internationale. 1967, c'est la guerre des six jours, donc une des nombreuses guerres entre Israël et les pays arabes. Et pour la première fois, la France, avec De Gaulle, se désolidarise un tout petit peu d'Israël. C'est le début de ce qu'on appelle la politique arabe du général De Gaulle, qui est en réalité une politique sans doute parmi les pays occidentaux des plus équilibrées, en tout cas beaucoup plus que celle des États-Unis ou l'Angleterre, mais qui va commencer à remuer les consciences des juifs français. Parce que là, certains se retrouvent avec une sorte de conflit d'identité, et ils commencent à se poser la question, est-ce que je suis plus français, est-ce que je suis plus juif, autrement dit, est-ce que j'ai une solidarité forte avec Israël? Et tout ça va commencer à remuer leur mémoire du passé, et certains vont commencer à accepter de parler à ce moment-là. Et puis, dans les années 70 et 80, d'autres événements, on va dire plus grand public, vont intervenir. Une série de films, comme notamment, j'imagine certains se rappellent, 1979, la série américaine Holocaust, donc qui est une des toutes premières représentations, sous forme de fiction, hein, de ce qu'a été le massacre spécifique des Juifs. Et puis, 1985, Claude Lanzmann, hein, le film Shoah, où pour la première fois, on a aussi des bourreaux qui parlent, le film très long, hein, puisqu'il dure 9 heures en tout. 1979, c'est aussi, et enfin, dernier élément, dernier jalon, si vous voulez, la création d'une association par les époux Klarsfeld, hein, Serge et Beate Klarsfeld, qui s'appelle donc les fils et filles de déportés juifs de France, où ils vont mener un certain nombre d'actions pour faire connaître la spécificité des crimes contre les juifs, et puis également poursuivre la traque des nazis. Ça, c'est assez connu. Tous ces événements, si vous voulez, des années 60 aux années 80, vont conduire à une accélération de la recherche historique en France sur cette question-là, qui jusque-là n'avait pas été spécifiquement mise en avant. Et en même temps que la recherche historique va se développer, eh bien, la mémoire juive va elle-même continuer à se réveiller. Voilà, donc ça c'était le point sur au niveau national. Si j'en viens maintenant au niveau local, donc concernant la situation des Juifs en Corrèze, très clairement, le silence sur la présence et le sort des Juifs en Corrèze a été encore plus tardif, qu'au niveau national. Il faut bien avoir à l'idée que, et ça n'est pas polémique que de le dire, que la mémoire corrézienne a été très longtemps, encore en partie aujourd'hui, mais ça a changé un petit peu quand même, totalement capté par des événements de la guerre particuliers, les maquis de la résistance, la libération glorieuse de Brive, les combats d'Égletons-Ussel, même si à Brive on connaît un peu moins parce que c'est déjà la Haute-Corrèze, et puis dans ce qui est de l'ordre du drame, les pendus de Tulle, évidemment, avec en arrière-plan Oradour qui était derrière. Et globalement, on parle, voilà à quoi se limitait la Seconde Guerre mondiale dans l'esprit des Corréziens. Nous étions une terre de résistance, il y avait eu des drames, mais où étaient les Juifs? Pas de Juifs. Voilà. J'ai pris pour illustrer ce point de vue-là un exemple qui n'est pas du tout avec un but polémique, je le dis clairement, puisque l'auteur, je le connais et on a eu l'occasion de travailler ensemble. En 1995 est sorti un livre qui s'appelle « Mémorial de la résistance et de la déportation », écrit par Bernard Delaunay, qui était un prof d'histoire avec qui j'ai travaillé donc, au lycée Danton, en relation avec la nacre. Comme il l'explique dans le préambule, c'est un travail de recensement. Alors, il précise bien que ça n'était pas exhaustif, bon, pour plusieurs raisons, mais un travail de recensement et pas d'analyse historique, je le cite. Il s'agit de faire le point sur notre patrimoine du souvenir. Bon, la couverture est assez nette, hein, il s'agit du monument aux martyrs de Cueil. Bon, le but, c'était de recenser sur l'ensemble des communes de la Corrèze les plaques, les stèles qui évoquaient la Seconde Guerre mondiale, à la fois la résistance et la déportation. Bon, je relève deux faits significatifs sur ce livre qui date, je le redis, de 1995. Hein, voilà, donc c'est assez tardif. Le premier fait significatif, c'est que sur les 200 plaques qui ont été recensées dans ce livre, il y en a une où le mot « juif » apparaît. Une occurrence du mot « juif ». Et j'ai envie de dire « et encore ». Il s'agit à l'époque d'une plaque qui est située à Ligignac, donc du côté de Neuvic, où on dit que 4 juifs, le mot est cité, ont été tués, mais en fait, ils ont été tués parce qu'ils étaient des combattants de l'AS. Donc là, on dit qu'ils sont juifs, mais c'est la seule plaque. Voilà. En 1995, il n'y avait pas d'autre lieu en Corrèze où on voyait le terme juif apparaître et donc la spécificité de leur vécu. Le deuxième élément significatif de ce livre, c'est la préface. La préface a été signée par Roger Lescure, que j'ai connu un petit peu également, compagnon de la Libération, résistant communiste d'échelon régional. Donc là aussi, il n'y a pas d'idée de polémique du tout de ma part. Simplement, donc, il fait une préface d'à peu près trois pages de ce livre. Il ne cite pas une seule fois le mot « juif ». Jamais. D'autre part, il met en exergue, comme on le fait beaucoup à l'époque, la Corrèze, terre de résistance. Terre de résistance est écrit en gras. Donc on met vraiment l'accent là-dessus. C'est assez révélateur, pas d'une mauvaise foi ou de quoi que ce soit, simplement de l'intérêt qu'on portait en Corrèze à l'époque. Or les Juifs, eh bien, on ne s'y intéressait pas. Bien. Il évoque également dans la préface ce qu'il appelle, entre guillemets, les camps de la mort. Sauf qu'en 1995, il y a longtemps déjà qu'on fait la distinction entre différents types de camps de la mort. Les camps de concentration et les camps d'extermination qui ont été quasiment systématiquement envoyés les Juifs. Et là, dans la préface, il ne le fait pas. Donc, vous voyez, on est dans une époque où finalement, eh bien, les Juifs en Corrèze, ils n'existent pas. Alors aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais on est 25 ans plus tard. Pourquoi et quand a eu lieu cette évolution? Et là, je vous livre quelques pistes de réflexion. Qui nécessiterait sans doute d'aller un peu plus loin. D'abord, il se trouve que dans un nombre assez important de cas, il y a eu une demande des Juifs eux-mêmes. Peu de Juifs en Corrèze, et ça explique aussi pourquoi ça a été tardif. Nous sommes un département où, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une communauté juive véritablement importante. Donc ce sont souvent des Juifs qui ont vécu la guerre en Corrèze et qui sont partis faire leur vie, et pour les raisons que j'ai évoquées après, tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, ils ont eu envie de retrouver leur passé, de retrouver éventuellement des gens qui les avaient cachés, etc., etc. On sait aussi que plus les gens vieillissent, et ça, c'est pas spécifique aux Juifs, hein, plus les gens vieillissent, plus ils ont envie de laisser une trace de leur mémoire et de leur vécu, et que tout ça ne tombe pas dans l'oubli avec leur mort, la volonté de transmettre un vécu qui est venu de manière assez tard. Le deuxième élément, je vais y arriver ensuite, je vais le développer, il y a eu une enquête choc qui a ouvert la voie, on va dire, au questionnement. Et enfin, les travaux historiques, notamment d'historiens locaux, ont pris le relais. Toujours est-il que la première étape de la reconnaissance, si vous voulez, de la présence des Juifs en Corrèze, a été de dire que la Corrèze était un lieu de refuge et un lieu de sauvetage. Bien. Quelques exemples. Un exemple assez marquant. Donc là, j'ai mis cette photo qui n'est pas prise en Corrèze. Il s'agit du site de Yad Vashem. Yad Vashem, qui est un institut israélien créé en 1953, donc à Jérusalem, dans le but de conserver la mémoire de ce qu'a été la Shoah, évidemment. Et Yad Vashem, à partir de 1963, a commencé à décerner le titre de « juste parmi les nations », c'est-à-dire, donc juste après le procès Eichmann, c'est-à-dire des personnes non-juives qui ont permis à des juifs d'être sauvés au péril de la propre vie de ces non-juifs. Voilà. Le premier Français qui a obtenu le titre de « juste parmi les nations », c'était en 1964, donc c'est très tôt après les premières nominations, c'était un religieux, le père Jean Fleury, qui habitait dans la région de Poitiers. Bon, je rappelle également que ce titre est accordé après une enquête assez sérieuse, avec des témoignages, des recherches qui sont faites, et ce sont les Juifs qui doivent faire la demande pour les non-Juifs. C'est pas un non-Juif qui dit « j'ai été juste, reconnaissez-moi comme tel ». Donc c'est bien les Juifs qui font cette démarche. Voilà. Au 20 janvier 2019, j'ai pas revérifié, mais pour la Corrèze, ça n'a pas changé depuis, mais au 20 janvier 2019, la situation est la suivante. Il y a dans le monde 26 900 personnes qui ont été reconnues comme juste parmi les nations, donc des non-juifs qui ont sauvé des juifs. Parmi ces 26 000 et quelques justes, il y en a 4 086 qui sont français, la France étant le troisième pays le plus représenté après la Pologne et les Pays-Bas. Bon. Qu'en est-il des Corréziens? La première personne qui a été faite juste en Corrèze, c'était en 1988, Donc on est 24 ans après le premier juste français, donc c'est quand même très tardif, hein. Il y a bien un décalage d'à peu près 25 ans. Voilà. Il s'agissait de Germaine Bocquet qui était à Brive pendant la guerre, proche d'Edmond Michelet, qui était une scout catholique et qui avait sauvé plusieurs juifs en faisant des faux papiers, en leur délivrant des caches et en les... en permettant pour certains le passage en Suisse. Et parmi les juifs qu'elle a sauvés, il y avait notamment l'historien Jules Isaac. Voilà, hein, donc personnalité connue, évidemment. L'année d'après, en 1989, il y a eu Marius et Aimé Guédin, hein, donc le général Guédin, important résistant de l'AS. Quant à Edmond Michelet, personnage reconnu pour avoir sauvé pas mal de juifs pendant la guerre, il a été fait juste seulement en 1995. Donc évidemment à titre posthume, à la demande de Betty Dampfernst, qui était une jeune fille juive qu'il avait cachée à Aubazine, au couvent d'Aubazine, avec une douzaine d'autres enfants et quelques adultes. Voilà. Donc les Corréziens qui ont été faits justes, eh bien ils l'ont été de manière assez tardive. J'y reviendrai à la fin de l'exposé. Sauf que le deuxième élément qui va faire ressurgir la mémoire, c'est une enquête choc. Voilà. Alors j'ai mis la une du VSD, donc du mois de mai 1992. La une en elle-même n'a rien à voir avec notre sujet, mais j'ai trouvé ça assez rigolo finalement. Enfin si, il y a à voir parce que vous avez le donc, exclusif, le château de la honte où Vichy rançonnait les juifs avant de les déporter, c'est ça qui va nous intéresser. Donc c'était bien présent en une, mais je trouvais assez rigolo cette une de VSD en 1992 où on disait « le mariage homosexuel c'est pour demain ». Je rappelle que ça a été en 2013, hein, donc il a fallu demain, c'est des fois 21 ans après, hein, enfin, si vous voulez, c'est comme ça, hein, voilà. Mais c'est assez rigolo parce que ça, du coup, historiquement, ça serait intéressant à étudier. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le VSD du mois de mai 1992 ? Donc, une enquête choc qui a été un article dont le titre s'appelle « Château avec vue sur la mort », un article écrit par le journaliste Philippe Pala, qui est venu sur place, il est venu à Altillac, donc à côté de Beaulieu, il est allé à la mairie, il a demandé à la secrétaire de mairie, est-ce qu'il y a des archives sur la guerre ? La secrétaire dit, oh écoutez, ça c'est des vieilleries, c'est au grenier, montez voir au grenier, il doit y avoir des trucs, mais vous vous débrouillez avec ça. Bon, et il a trouvé des choses assez intéressantes, dont beaucoup ont disparu depuis, on sait que dans les jours suivants, la cheminée du maire d'Altillac de l'époque a fumé pendant plusieurs jours, et à Beaulieu, tout le monde a des doutes sur ce qu'il a, voilà, sur les archives qu'il aurait pu détruire par la suite. Mais peu importe. Bon, qu'est-ce qu'il a retrouvé ? En fait, il n'est pas venu à Altillac par hasard, c'est le journaliste Philippe Pala, il était en contact avec Jean Friedman. Jean Friedman, donc un juif résistant, qui a séjourné au château du Doubs à Altillac seulement pendant deux jours, puisqu'il s'est évadé, il avait sans doute un pressentiment. Il est devenu un homme d'affaires et un homme de l'audiovisuel important. Après, il est encore vivant, hein, si je ne me trompe pas, actuellement. Voilà. Cet article a montré que la Corrèze avait été un lieu d'internement et de contrôle. Et il faut bien parler de lieu d'internement. Bien. Alors évidemment, c'est du VSD. Ce qui veut dire qu'à l'époque, ce qui intéresse VSD, c'est avant tout le sensationnel. Voilà. On a plusieurs éléments qui le montrent. Hein. Déjà, le titre « Château avec vue sur la mort », bon, là, on sait où on va. Deuxièmement, il parle de plus, entre guillemets, d'un millier de juifs. Il parle de 2,9 milliards de francs actuels qui leur auraient été pris. La photo qui est cadrée sur la grille, alors il n'y avait absolument aucune obligation, hein, de la cadrer sur la grille, mais quand on la cadre sur la grille, ça augmente l'effet prison, évidemment. Hein, voilà. Donc on est typiquement dans du VSD. Les responsabilités de l'existence de ce château d'internement sont définies, alors au niveau national, Bousquet, au niveau départemental, le préfet Musso, et puis au niveau local, le maire, notaire, donc maître Masse. On parle d'ancien maire pétainiste dans l'article, évidemment. Voilà. Je rappelle quand même que ce maire, donc, que l'on qualifie de pétainiste, il a été maire à partir de 1934, voilà, jusqu'en 1944. En 1944, il a été viré et il a été réélu maire en 1945 jusqu'en 1958. Voilà, donc c'est quand même un maire qui, par ailleurs, était apprécié des habitants. Hein, voilà, donc on ne peut pas non plus. Voilà. Par contre, donc on parle bien de milliers de juifs, mais le terme rafle pour ces juifs est utilisé une seule fois. La plupart du temps, le journaliste parle de juifs emmenés, embarqués, et on ne sait jamais où. Nulle part, la destination n'est recherchée. Voilà. Donc c'est un article qui ne fait pas, évidemment pas toute la lumière cette question, sur cette question, qui a eu le mérite. Alors à Beaulieu, moi je me rappelle, à l'époque, ça coinçait un peu, hein, parce que quand on avait des réunions et tout ça, là ça venait sur le tapis, et puis c'était à celui qui en savait le moins, voilà, mais c'est comme ça. Toujours est-il que cet article a un peu débloqué la situation, et depuis on a un élément très sérieux qui a été réalisé par une vraie historienne sérieuse qui s'appelle Nathalie Sicard-Roussary, qui a publié un article en 2012, très fouillé sur la question du château du Doubs. Il est, on le retrouve facilement sur Internet, et ça a été une des bases de sa thèse que je vais évoquer et qui est sortie en 2016. Voilà. Je rappelle aussi que dès auparavant, il y avait un travail également sérieux qui avait été réalisé plutôt en Haute-Corrèze par Mouni et Paul Estrade, qui avaient redécouvert l'histoire d'un autre camp, qui était le camp de Soudeil. Le camp de Soudeil, donc près des Gletons, Soudeil était un camp de GTE. Les GTE, c'était les groupements de travailleurs étrangers, j'y reviendrai un peu après. Et ils ont relevé le fait qu'entre 1941 et 1942, dans ce camp, plus de 550 juifs ont été internés. Et sur ces 550, 150 ont été déportés et exterminés donc dans les camps d'extermination. Ce qui veut dire qu'on franchit un autre cap. Non seulement la Corrèze a été un lieu d'internement, mais la Corrèze a aussi été un lieu de départ vers la déportation et donc vers l'extermination. Voilà. Ça, on est dans les années 90 et avec des répercussions aujourd'hui. Avec ces éléments-là, eh bien, très clairement, on assiste depuis ça a commencé il y a 20 ans, mais ça se développe beaucoup depuis le début des années 2010, à une recherche historique que j'appellerais une recherche historique de rattrapage. C'est-à-dire que les historiens locaux se sont un peu emparés de cette question et ont fait une œuvre qui est de plus en plus fouillée et de plus en plus précise. Le pionnier des historiens locaux, c'est Jean-Michel Valade. Jean-Michel Valade, qui est le premier en 1995, a publié un article dans Lémousy qui s'appelle « Bilan de la déportation en Corrèze ». Alors, donc, c'est un article qui a 25 ans maintenant, hein, voilà, donc il est précurseur très clairement. À l'époque, il dit qu'il y a 778 personnes sûres qui ont été déportées, mais il dit « on est sans doute aux alentours de 1000 ». Et il définit, individualise trois groupes de déportés. D'un côté, les résistants, de l'autre côté, les otages, et troisième groupe, les juifs. Voilà. Il considère également à l'époque qu'il y a eu à peu près sur ces 1000 déportés 500 morts, et il parle de 200 juifs déportés. Alors il a lui-même revu à la hausse dans des travaux plus récents ce chiffre. Dans les derniers articles qu'il a présentés, il réévalue le nombre de juifs déportés à peu près 400. On verra à la fin qu'on est même au-delà aujourd'hui. Voilà. Il a publié notamment une carte dans cet article qui était un début, qui mériterait là aussi d'être réévalué. Par exemple, on voit qu'à Altillac, il y a un tout petit point, alors que le point devrait être beaucoup plus gros. Voilà, donc il y a Mémac, ça devrait être plus important également. Béna également, qui apparaît avec un petit point, il devrait être plus important. Donc voilà, cette carte, elle avait le mérite d'être un point de départ. Voilà. Ensuite, il y a eu une série de travaux que j'évoque rapidement pour mémoire, notamment un colloque qui a eu lieu en 2004 en Haute-Vienne, qui s'appelait « Enfance juive en Limousin », à l'initiative de deux historiens limougeaux, hein, Pascal Plat et Michel Kiner, qui n'étaient pas spécifiquement sur la Corrèze, mais qui étaient à l'échelle de la région qu'on appelait pendant la guerre la région R5, c'est-à-dire en fait les trois départements de la Corrèze, plus la Dordogne, plus le sud de l'Indre et quelques bouts également d'Indre-et-Loire, si je me rappelle bien. Voilà. Ce colloque a été transcrit en 2008 en livre, et il met bien sûr l'accent sur le fait que le Limousin particulièrement a été une terre de refuge, mais aussi une terre de persécution des Juifs, en accent particulièrement le rôle sur ce qu'on appelait la PQJ, c'est-à-dire la police aux questions juives, avec un personnage particulièrement zélé qui s'appelait Joseph Antignac et qui poussait toujours à ce qu'il y ait des rafles de plus en plus nombreuses et importantes. Et dans ce colloque, Gilbert Bobatti, autre historien connu de la Corrèze, a fait un article sur la Corrèze dont je reparlerai après. Ensuite, on a eu tout un tas de livres qui sont sortis, notamment en 2004 également, Guy Penaud, qui n'est pas un historien professionnel, c'est un ancien commissaire de police, qui est devenu historien et autodidacte, mais qui a fait un travail très sérieux sur un épisode qui était là aussi assez peu connu, ou en tout cas dont la mémoire n'était pas restée très très vive, c'est les crimes de la division Bremer. Je vais en parler plus précisément tout à l'heure, puisque en mars-avril 1944, ils ont sillonné une bonne partie de la Corrèze et étaient particulièrement, particulièrement durs, voilà, et meurtriers même. Cette question des crimes de la division Bremer a suscité d'autres livres ensuite. Il y a par exemple le livre, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, de Jean-Marie Borzex, paru en 2008, qui s'appelle « Jeudi Saint », particulièrement sur le passage de la division Bremer à Buja, dont on reparlera. Et puis, dernier en date, Paul Mons, qui est décédé, je crois, l'année dernière, mais en 2016, avait publié un autre livre, « Afin que nul n'oublie la folie meurtrière de la division Bremer ». Voilà. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas pour moi, j'ai mis la photo, en fait, c'est pour rappeler un autre élément. Donc, en 2006, à Beaulieu, nous avons redécouvert, en fait, un pan complètement passé dans l'oubli. Alors, c'est pas ni à mon initiative ni à celle de la mairie de Beaulieu, mais c'était à l'initiative des Juifs qui avaient été concernés. En fait, il se trouve que pendant une bonne partie de la guerre, entre 1939 et 1943, il y a eu une importante colonie d'enfants juifs à Beaulieu. 70 enfants avec leurs moniteurs, c'était des EIF, éclaireurs israélites de France, qui ont quasiment toutes été sauvées. Voilà. Sauf qu'après, on n'en a plus jamais parlé à Beaulieu. Moi, j'ai grandi à Beaulieu, jamais on n'avait entendu parler de ça. Alors que leur colonie, elle était en plein milieu de Beaulieu, sur une petite place qui s'appelle Place de la Bridole, qui donne directement sur l'église. Donc c'était quand même un épisode assez important. Et en 2006, eh bien, quelques-unes de ces anciennes juives, notamment les Cheftaines, ont pris contact avec la mairie de Beaulieu pour dire « mais on aimerait bien faire quelque chose, parce que Beaulieu, pour nous, alors certaines parlent de Havre de paix, etc. etc. » Elles avaient gardé un excellent souvenir de Beaulieu. Bon, à l'époque, j'étais au conseil municipal. Le maire qui est présent sur la photo, là, Jacques Vigier, n'était pas spécialement versé dans l'histoire, comme la plupart des gens du conseil municipal. « Ah, moi, j'étais prof d'histoire, on m'a refilé le bébé, on m'a dit « tiens, toi, tu vas te débrouiller avec ça. » Voilà. Alors, et à cette occasion-là, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser, et j'avais sorti un petit fascicule pour retracer l'histoire de ces enfants juifs. Et on a donc apposé en octobre 2006 à Beaulieu une plaque. Et donc là, vous avez le maire de Beaulieu et à côté, vous avez Maki. Alors Maki, c'est ma grande copine. Alors elle vit toujours, mais elle est très âgée. Elle est à Paris. Elle a 97 ou 98 ans maintenant. Elle s'appelle Germaine Poliakov-Rousseau. C'est en fait la veuve du philosophe et historien Léon Poliakov, s'il y en a qui connaissent. Alors pendant la guerre, elle était une des cheftaines de ces enfants juifs, et donc voilà, et je suis resté en contact, on est devenus amis comme ça, et c'était notamment à l'initiative de cette personne-là qu'on avait fait ce travail. Disons que c'était une pierre de plus à l'édifice de la connaissance. Voilà. Je signale d'autres livres, d'autres éléments plus récents. 2012, Guy Perlier qui a produit un livre qui s'appelle La Rafle, août 1942, région de Limoges. C'est un livre qui est pour la première fois consacré uniquement à la première véritable grande rafle organisée dans la zone sud, qui était, je le rappelle encore, uniquement sous la responsabilité de Vichy. C'est pas les Allemands hein, qui ont fait cette rafle, mais c'était bien les policiers de Vichy. Bon, sur le détail, il y a quelques éléments dont on pourrait discuter, mais enfin, ça a le mérite d'exister. Voilà. Il parle dans son livre donc de cette rafle du 26 août 42. 458 juifs de la région ont été déportés à ce moment-là. Voilà. Depuis, d'ailleurs, je précise, David Marmonnier, qui est également un collègue, a produit un article dans la revue de Tulle, hein, la revue des sciences, lettres et arts de la Corrèze, où il a affiné et précisé les chiffres sur les rafles et sur la déportation. Je l'évoquerai à la fin. Voilà. Je disais tout à l'heure, Nathalie Roussary-Ricard, alors là, c'est vraiment le livre de référence actuellement. Elle a publié sa thèse en 2016, qui est une thèse qui s'appelle « Les ennemis de l'intérieur ». Donc, elle s'intéresse pas seulement aux Juifs, mais à tous ceux qui étaient considérés comme les ennemis du régime de Vichy, les communistes, les juifs et les francs-maçons corrèzes. Et ce qui est intéressant, sur une période élargie, puisqu'elle commence avant la guerre, en 1934, c'est vraiment un travail extrêmement complet, sans doute le plus complet à ce jour, y compris sur les juifs, où elle a abordé des questions très importantes et peu évoqué auparavant. Voilà. À part les livres, je signale d'autres événements assez récents. Il y a eu, par exemple, en 2014, au Centre Edmond Michelet, une exposition sur les Juifs de Corrèze dans la Shoah. L'année d'après, en 2015, à Chavanac, donc en Haute-Corrèze, une rencontre qui s'est appelée « Mémoire juive en Limousin », avec à la fois des historiens des mémoires, donc qui a apporté de nouvelles précisions. Puis je précise qu'il y a en préparation à l'initiative du Centre Michelet de Brive, donc un colloque qui aura lieu à Brive les 28 et 29 octobre, spécifiquement sur la question des Juifs en Corrèze également. Voilà. Donc, normalement, je devrais y participer. On doit avoir une réunion dans les jours prochains. Voilà. Bon, j'ai été assez long sur cette présentation, mais il me semble qu'il fallait vous montrer comment est-ce que c'est finalement de manière très récente que la question des Juifs en Corrèze, elle est devenue un sujet, on va dire, d'intérêt pour les historiens. Voilà. Quelques mots maintenant sur la présence des Juifs avant la guerre. Je repars un tout petit peu avant. Bon, d'abord, première chose, c'est qu'ils sont peu nombreux avant la guerre, les Juifs en Corrèze, on s'en doute bien, mais ils ne sont pas totalement absents. Il y a quelques familles juives qui sont installées. Alors, au premier rang, au premier chef, ce sont dans les principales villes. On sait qu'à Brive, il y a une quinzaine de familles, ça c'est Nathalie Roussard-Issicard qui l'a montré, une quinzaine de familles qui sont installées à Brive. Ils sont tous naturalisés français. Il y a deux, trois familles à Tulle. Ce sont la plupart du temps des commerçants. Je donne quelques exemples. Il y avait par exemple à Brive la mercerie Lang qui était située rue Toulzac, dont le nom du magasin était Au Fouillis. Il y avait également la famille Berlot, propriétaire d'un magasin qui s'appelait la Maison du Meuble et qui était proche par ailleurs du sénateur François Labrousse. Voilà. Il y a quelques familles comme ça. Il y avait aussi quelques rares familles qui avaient pu avoir un contact avec des zones plus rurales. Et là, c'est peut-être plus étonnant. Voilà. Ça, je vous en donne deux exemples. Le premier exemple, il concerne Beaulieu. Je vous ai mis le portrait de ce personnage qui s'appelait Asher Pérez. Il se trouve qu'Asher Pérez, il est né sous un nom qui était Aristide Pressman à Beaulieu en 1934. Voilà. Il est mort en 2005, il est mort en Israël. Pourquoi il est né à Beaulieu, cet homme-là? Eh bien, tout simplement parce que son père était un ingénieur électricien juif polonais qui avait trouvé du travail dans les années 30, dans la pose de lignes électriques, et il était venu s'installer avec sa famille à Beaulieu. Ensuite, en 1935, au plus fort de la crise économique, il est expulsé de France, comme l'ont été beaucoup de Juifs et de Polonais également, donc renvoyé en Pologne. Il a pu revenir ensuite en 1937, parce que la France a fait appel de nouveau à lui, mais là, il a le droit de revenir seul, voilà, sans sa femme et sans son gamin. Donc il laisse la femme et le gamin en Pologne. Il va réussir ensuite, progressivement, à faire revenir son fils en 1938 et sa femme, in extremis, quelques semaines avant la déclaration de guerre en 1939. Et lorsque cette famille juive va devoir fuir, puisqu'ils sont revenus dans la région parisienne, l'avancée des combats en juin 1940, ils se sont souvenus qu'ils avaient passé quelques temps à Beaulieu et ils sont venus s'installer à Beaulieu. Donc la mère et le fils vont rester toute la guerre à Beaulieu, le père va les quitter pour aller rejoindre la résistance. En 1944, au printemps 1944, quand la situation devient extrêmement dangereuse, Aristide et sa mère sont cachés par une Belloquoise qui s'appelait Germaine Chélac, qui est morte plus tard. Et ensuite, ils ont fui dans le Lauragais, et à la fin de l'année 1944, ils vont revenir à Paris. Puis en 1949, ils partent en Israël, et c'est là où il a hébraïsé son nom, donc de Aristide Pressman, il est devenu Asher Pérez. Ensuite, il a mené une carrière assez importante, puisque c'était un physicien israélien, alors spécialiste de mécanique quantique, ne m'en demandez pas plus, hein, voilà. Bon. Je sais également qu'il a participé au programme de la bombe atomique israélienne. Voilà. Donc un personnage assez important, mais qui avait connu Beaulieu à cause de l'emploi de ses parents, et qui était même né à Beaulieu. Le deuxième exemple que j'ai trouvé dans un article de la revue des lettres et sciences de la Corrèze, c'est le cas de Jean Hatzfeld. Jean Hatzfeld était un universitaire, et en 1937, à la suite de plusieurs séjours qu'il avait fait en Corrèze pour des vacances, en fait, il a décidé d'acheter une maison de campagne à Poissac, donc à Chaméra, en fait, à côté de Tulle, avec son épouse. Alors, pourquoi j'ai pris ces deux exemples? Parce qu'ils montrent que quelques familles juives avaient une connaissance de la Corrèze, soit par un emploi temporaire, soit par le tourisme. N'oubliez pas qu'on est dans la deuxième partie des années 30, on a le Front Populaire, on a l'essor, en tout cas les prémices de l'essor du tourisme, et donc il y a des familles juives qui avaient connu. Ce qui explique aussi qu'un certain nombre d'entre elles, quand l'exode va arriver en 1940, eh bien, elles vont choisir la Corrèze parce qu'elles l'avaient connue. Voilà. Donc, quelques familles juives qui sont soit installées, soit de passage plus ou moins réguliers. Il y a eu aussi une autre catégorie de juifs, particulièrement sur la période 1933-1935, de jeunes juifs qui sont passés dans la région. Il y avait alors des associations juives, notamment dans les grandes villes et particulièrement à Paris, qui essayaient de placer des jeunes en apprentissage, soit chez des paysans, soit chez des artisans, souvent des jeunes juifs venus d'Allemagne, et pour qui le passage en France était temporaire, puisqu'il était prévu pour eux d'aller rejoindre la Palestine. Et donc ça leur permettait d'apprendre un métier qui leur serait utile dans leur nouvelle vie en Palestine ensuite. On sait par exemple, et là aussi c'est Nathalie Roussary qui l'a retrouvé, que sur la période 1934-1937, on a 17 jeunes qui sont en apprentissage à Bord, il y en a 7 à Brive, il y en a 4 à Égletons, etc., etc. Et puis, dans un cas qui est assez proche, on a le fameux kibbutz. Oui. Kibbutz Machar, hein, tout le monde a entendu maintenant parler de cette affaire-là, à Jujal Nazareth. Il y a eu une plaque qui a été installée en 2000 hein, sur la maison. Il y a eu d'importantes cérémonies qui ont été réalisées depuis. Alors il s'agit là d'une ferme-école pour de jeunes juifs, la plupart du temps allemands, mais aussi il y a eu des polonais, lituaniens, etc., souvent de familles assez aisées, classe moyenne ou classe moyenne supérieure, qui sont venues là en attente d'un visa, elles aussi, pour la Palestine. Elles ont passé quelques mois, d'une part à apprendre l'hébreu et d'autre part à apprendre les travaux agricoles, travaux des champs, pour se nourrir. Et puis les surplus étaient amenés au marché de Brive où ils étaient vendus. Le bail de location de cette ferme a été signé par un jeune juif français d'une trentaine d'années qui s'appelait David Saltiel. Alors on en a parlé, Madame Aznar m'a signalé qu'une partie de sa famille, ensuite, pendant la guerre, avait été installée à Albussac, dans votre famille. Voilà. Et donc David Saltiel, qui était un juif français, sioniste, donc ça voulait dire très, très engagé hein, dans le développement de la migration vers la Palestine, membre d'une organisation sioniste qui s'appelait Ealutz, et avec derrière lui la famille de Rothschild qui avait quand même pas mal financé cet élément-là. Et ils ont donc signé leur bail de location avec la famille Verlac qui était propriétaire d'une propriété agricole avec maison à Jujal Nazareth de 70 hectares. On sait, alors contrairement à ce qu'on a pu lire encore récemment dans certains articles de journalistes pas très, très bien renseignés, certains ont parlé de 800 jeunes, ces chiffres sont totalement exagérés. Hein, Nathalie Roussary arrive au décompte d'à peu près 140 jeunes hein, qui sont passés sur la période de 1933-1935. Ils avaient là-bas une vie rudimentaire, hein, assez rudimentaire, et puis bah, ils vivaient leurs travaux agricoles. Il y avait des garçons et il y avait des filles. Alors quel accueil de ces juifs dans les années 30, en Corrèze. Bon, globalement, on peut dire que l'accueil et la perception que les Corréziens en avaient étaient assez mitigés. D'une part, il y a déjà à l'époque un certain nombre de dénonciations anonymes. Par exemple, un patriote, alors un patriote, c'est parce qu'il signe un patriote, évidemment, il ne signe jamais leur nom, hein, ces gens-là. Mais enfin voilà, un patriote entre guillemets qui adresse une lettre au préfet pour dire qu'il y a un jeune juif à Tarnac qui est qualifié de boche et de oisif. Donc on se méfie de ces gens-là, d'où ils viennent, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., etc. Mais en même temps, il y a toujours au préfet une lettre du directeur de l'école professionnelle de Bord-les-Orgues, donc qui écrit au préfet sur la présence des jeunes juifs dans son école, et qui est une lettre tout à fait élogieuse en disant « ils sont très bien élevés, ils se comportent très bien, etc. etc. » Donc on a les deux. Bon, face au kibbutz, comment la population de Jujal et des alentours se comporte-t-elle? Globalement, il semblerait bien que ce qui domine, c'est plutôt l'indifférence. Pas de véritable réaction négative, pas de détestation de la part de la population, pas d'amitié franchement prononcée non plus. Ce qui explique aussi que finalement, la population sera prête à suivre les autorités. Voilà. Donc on les déteste pas, on les aime pas, ils sont là, ma foi, ils sont un peu bizarres parce qu'il y a des filles en short, etc. Mais bon, voilà, ils gênent spécialement personne, mais quand on va les obliger à partir, il y aura quasiment personne pour les défendre. Les rares soutiens que cette communauté du kibbutz a obtenus sont des soutiens d'hommes politiques comme Henri de Jouvenel, ou encore d'un journaliste qui était Henri Fabre, le directeur de la Corrèze républicaine et socialiste. Il n'y a pas eu de mobilisation des personnalités de gauche locale pour les défendre quand leur communauté a été attaquée. On les a un peu laissés, voilà. C'est pas des gens d'ici, ma foi. Hein, voilà. Bon. Par contre, ils vont être victimes d'une campagne de presse nationale lancée par un journal qui s'appelle L'Écho de Paris, donc la une de L'Écho de Paris, donc du 2 décembre 1934, avec en rouge l'article que je vous ai grossi, qui évoque pour la première fois, donc à l'échelle nationale, ce, ce kibbutz Machar. Bon, l'Écho de Paris est un journal de droite conservatrice et patriote, et en décembre 34, il écrit un premier article, il y en aura d'autres après, où en gros on se demande, mais que font ces jeunes juifs à Jujan Nazareth, si près d'un tunnel de voie ferrée? En gros, et plus tard ça sera dit de manière plus claire, on les accuse d'être de potentiels terroristes qui pourraient poser des bombes sur le tunnel de voie ferrée. Alors sur quels critères? Évidemment, là, c'est totalement, totalement inventé. Bon, toujours est-il qu'à partir de cette campagne de presse, il va y avoir plusieurs interventions officielles dans le même sens, notamment le sous-préfet de Brive, qui s'appelait Dutruc à l'époque, qui est un antisémite, hein, d'ailleurs il finira pas la guerre, hein, il a été fusillé en 1944, le préfet qui va relayer ça, la gendarmerie également, et tous vont dans le même sens en disant « ces juifs sont suspects, il ne faut pas les garder, etc. etc. » Bilan de l'affaire, en février 1935, le ministre de l'Intérieur prend la décision, la communauté est fermée et les juifs sont expulsés. Voilà. Et là, il n'y a pas de réaction de la population. Hein, donc on a laissé faire. Bon. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin et dire qu'il y a, dans les années 30, un antisémitisme en Corrèze? Là, on a juste quelques jalons que je vous propose. On sait par exemple qu'en février 34, alors février 34, on est dans le contexte de l'agitation des ligues d'extrême droite, hein, au niveau national, est créé à Brive, donc un hebdomadaire qui s'appelle le Réveil du Bas Limousin, par un personnage juriste, voilà, parfois il se dit juriste, parfois il se dit journaliste, qui s'appelait Jean-Baptiste Levé. Ce qui est très clair, c'est que dans son hebdomadaire, il a des ennemis, j'ai envie de dire, intimes, voire attitrés, le sénateur Labrousse, bon, Henri Chapelle, le maire de Brive, les francs-maçons et bien sûr les juifs. Juste un exemple, par exemple, au cours, je crois que c'est l'année 34 ou 35, je ne l'ai plus pas noté, mais enfin, c'est dans ces eaux-là, il dénonce l'ouverture à Brive d'un monoprix en disant que ce monoprix est aux mains des juifs et qu'il va détruire le commerce local, évidemment. Voilà. Ce personnage-là, on va le retrouver un peu plus loin. Quand j'ai trouvé ça dans le livre de Nathalie Roussary, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je savais que ce Jean-Baptiste Levé, je l'avais trouvé ailleurs. Et en fait, on le retrouve en 1937, en janvier 1937, contre le Front Populaire, où il y a une manifestation, enfin une manifestation, un meeting plus exactement politique à Beaulieu, dans lequel vont parler deux grands orateurs, mais pas anodins du tout, Philippe Henriot et Xavier Vallat, donc deux futurs collaborationnistes purs et durs, hein, très clairement, donc qui ont été invités à Beaulieu à l'initiative d'un médecin. Et Jean-Baptiste Levé est présent à leur côté dans ce meeting politique. Et d'ailleurs, quelques mois après, en octobre 1937, il se présente, il a dû se sentir pousser des ailes sans doute, et il s'est présenté aux élections cantonales à Beaulieu. Donc voilà son bulletin de vote, ça c'est moi qui l'avais chez moi, et du coup ça m'a fait tilt, et voilà pourquoi je vous l'ai mis. Bon, il va être sèchement battu par le sortant socialiste Gabriel Glaise, qui était implanté déjà depuis presque 30 ans, donc voilà. Mais bon... Personnage donc un peu flou quand même, hein, ce Jean-Baptiste Levé. Et puis autre indice d'éléments antisémites, en 1938 a lieu le congrès départemental de l'UNC, Union Nationale des Combattants, voilà, dont le président est à l'époque Joseph Lacoste. Alors Joseph Lacoste est un avocat, tulliste, catholique conservateur, et qui lui aussi va verser au moins dans le pétinisme et qui finira pas la guerre non plus. Et voilà ce qu'il dit dans son intervention au congrès de l'UNC, il dit, je cite, « Il faut bouter hors de France la racaille internationale ». Tout le monde a compris de qui il parle des Juifs. Voilà. Donc on a quelques éléments comme ça. Ensuite, en juin 39, à Brive, il y a un tract diffusé par l'Action française qui dit, on assimile le 150e anniversaire de la Révolution au 150e anniversaire de la puissance des Juifs et de leur émancipation en France. Évidemment, dans l'esprit de l'Action française, ce n'est pas considéré comme un bon point. Voilà. Donc, quelques éléments, sans doute pas un écho énorme auprès de la population. En même temps aussi, on a, à la fin des années 30, un certain nombre de défenseurs auprès des Juifs, au premier rang desquels on a Michelet, hein, Edmond Michelet à Brive, qui organise pour la saison 1938-1939, un cycle de conférences dans le Cercle du Guet, dont le thème général s'appelle « Les dangers qui menacent notre civilisation ». Et vous avez plusieurs conférences, et les titres des conférences sont quand même assez clairs, on ne peut plus clair. Le totalitarisme, autre conférence, le racisme, autre conférence, l'antisémitisme. Ceci dit, on voit quand même là aussi qu'à l'intérieur du monde catholique, Michelet, qui est un catholique avancé, n'est sans doute pas... est sans doute assez isolé et pas majoritaire, puisque il y a eu des tensions au sein du cercle du gay, notamment avec l'abbé Mamy, qui lui reproche le choix de thème trop politiquement avancé, etc., etc. Voilà. Donc, difficile pour l'instant d'en savoir plus. La Corrèze n'est sans doute pas un département très, très antisémite, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de juifs, voilà, mais une population qui est plutôt globalement indifférente. Quand on en arrive à la... Ça va toujours, je ne vous ennuie pas, c'est bon ? Voilà, bon. Je m'inquiète quand même, parce que... quand on en arrive maintenant à la période de la guerre, donc la Corrèze a été, je le disais, c'est le deuxième point, un lieu de refuge, mais aussi de contrôle et d'internement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il y a eu un afflux important de juifs, j'ai envie de dire, tout au long de la guerre. Bon. Je rappelle juste pour mémoire qu'il y a eu un précédent... avec l'arrivée, donc à partir de 1936, mais surtout une arrivée assez forte des républicains espagnols entre janvier et mars 1939, hein, puisque au plus haut moment, on recense 2600 Espagnols en Corrèze, donc au début du printemps 1939 pour faire simple. Là aussi avec des réactions mitigées et complexes de la population. Hein. Il y a à la fois des comités de soutien et puis il y a quantité de dénonciations anonymes contre ces Espagnols qu'on traite de tous les noms, etc. etc. Voilà. Les Corréziens, quand ça vient de l'étranger, bon, ils sont un peu méfiants, quoi, disons, voilà, sans être non plus exagérément négatifs. Bon. Pendant la drôle de guerre, bon, on sait que la Corrèze a accueilli un afflux très important de réfugiés, pardon, particulièrement des régions du nord et de l'est. Un exemple, 2000 Belfortins hein, qui arrivent fin 1939 en Corrèze, la plupart dans la région de Tulle. Mais à ce moment-là, on ne peut pas quantifier spécifiquement le nombre de juifs, tout simplement parce qu'on ne les a pas recensés en tant que juifs. Ils sont évidemment des réfugiés totalement comme les autres. Par contre, dès cette époque-là, c'est-à-dire, ça commence déjà même un peu 1938 et puis au long de l'année 1939, il y a plusieurs organisations juives qui font de la prospection pour trouver des maisons afin de mettre des enfants particulièrement en sécurité. Notamment deux organisations, il y a l'OSE, donc l'œuvre de secours aux enfants, et puis il y a les EIF, donc les éclaireurs israélites de France, c'est-à-dire les scouts juifs, qui vont prospecter dans toute la région du sud pour essayer de trouver des maisons qui permettront d'abriter, d'héberger, disons, des enfants. Et ça va donner donc notamment des colonies d'enfants juifs assez importants dans le sud. Là, je vous ai mis l'en-tête des EIF donc, pendant la guerre. Là, c'est une lettre écrite de Beaulieu en mars 40, où on voit qu'il y avait... les EIF avaient établi 5 maisons dans le sud de la France. Donc, il y avait une maison à Saint-Céré dans l'Aude, Beaulieu, Villefranche-de-Rouergue, Sainte-Afrique et Moissac. Assez rapidement, il y en a 3 qui vont fermer. Il n'en restera plus que 2. C'est Beaulieu et Moissac, avec la maison mère qui est à Moissac et Beaulieu qui est une sorte d'annexe, si vous voulez, mais avec cette colonie. Cette colonie d'enfants juifs à Beaulieu, elle arrive précisément le 18 septembre 1939 et elle va s'installer donc dans deux maisons qui sont l'une face à face de l'autre. Donc je disais, c'est place de la Bridole, donc c'est côté entrée ouest de l'abbatiale de Beaulieu, où il y a une petite statue de la Vierge sur la place. Une partie des enfants va être installée dans ce qu'on appelait à l'époque la maison La Chiese, qui était auparavant la maison de Verrières, mais enfin voilà, maison La Chiese, où on a installé la plaque aujourd'hui, donc depuis 2006. Et puis les autres, ils sont de l'autre côté de la plaque, ils sont dans une pension de famille qui appartient à la même famille, qui est la famille La Chiese, qui a été pendant longtemps un restaurant que certains connaissent peut-être, c'était le Biologie, voilà, qui est fermé aujourd'hui. Hein, voilà. Et on a là donc environ 70 enfants. Très grande majorité de filles. Les garçons ont été installés plutôt à Moissac et à Saint-Céré, avec leurs encadrantes, c'est-à-dire les cheftaines, essentiellement des filles également. Et puis l'OSE, elle, va trouver une maison à Ussac, donc juste à côté de Brive, pour héberger entre 30 et 40 enfants juifs, dits de stricte observance, c'est-à-dire ce sont des familles juives beaucoup plus religieuses, celles-là. Voilà. Malheureusement, la colonie d'enfants d'Ussac reste encore assez mal connu parce qu'il n'y a pas eu d'études véritablement spécifiques et importantes réalisées sur cette colonie-là, peut-être par manque d'archives, peut-être ça viendra également. Voilà. Donc ça, c'est pendant la drôle de guerre. Évidemment, au moment de l'exode du printemps 40, il y a une arrivée massive avec d'autres réfugiés. Là aussi, on ne les distingue pas, mais avec une différence majeure, c'est qu'il va être interdit aux Juifs de revenir en zone occupée. Ce qui veut dire que les Juifs réfugiés, donc au moment de l'exode, pour eux, eh bien, le séjour forcé va se prolonger donc dans la zone sud, et particulièrement en Corrèze pour ce qui nous intéresse ici. Alors que les autres réfugiés vont pouvoir repartir, et même pour certains, ils seront incités à repartir C'est le cas des Belges, par exemple, qui sont là pour la plupart repartis. Bien. Ensuite, notre zone fait partie de la zone dite libre, en fait, zone non occupée, donc jusqu'en novembre 1942. Et là aussi, on sait que pendant toute cette période, entre 40 et 42, pas mal de familles vont passer de manière clandestine, familles juives, la ligne de démarcation pour échapper aux premières déportations qui ont lieu et qui commencent dès 1941, même si elles ne sont pas encore massives dans le nord de la France. Un exemple parmi beaucoup d'autres, parce que je l'ai retrouvé là aussi dans un article de la revue de Tulle, le cas de Georges Gellman. Alors Georges Gellman est un enfant qui a 10 ans en 1942. Il vit avec sa mère à Dax, donc dans les Landes, et il est arrêté avec sa mère le 16 juillet 1942, donc ça correspond au même moment où il se passe malheureusement la rafle du Veldiv. Sa mère va être déportée, elle n'est pas revenue. Lui a été relâché, voilà, il y a eu sans doute un... Parce qu'ensuite ils l'ont recherché puis ils ne l'ont pas retrouvé, vous pensez bien qu'il a été caché. Mais enfin, il l'avait arrêté avec, avec sa mère et puis ils l'ont relâché. Donc il a été caché quelques temps par des amis de la famille, puis il a passé... clandestinement la ligne de démarcation avec un groupe d'une trentaine de personnes fin juillet 1942, et sa destination c'était Brive, parce que sa grand-mère habitait à Brive, si je me rappelle bien, c'était dans cette rue là d'ailleurs, rue du docteur Masséna, c'est ça?
Oui.
Ouais, donc ça devait être dans cette rue, alors exactement à quel endroit, j'en sais rien. Il a été scolarisé à Brive, et il a été ensuite caché en 1944 à Brive également. Et donc il a réchappé évidemment à la déportation, contrairement à sa mère. Il a été témoin au procès Papon en 1997, hein, puisque le Dax faisait partie de la circonscription qui était gérée à l'époque par le préfet Papon. Voilà. Donc on sait qu'il y a beaucoup de familles juives qui ont passé la ligne de démarcation de manière clandestine. À partir de fin 42, la situation devient beaucoup plus complexe. On sait que dans la dernière partie de la guerre, donc il y a à la fois des départs de juifs, des arrivées de juifs, des transferts, et puis avec, bien sûr, derrière, la traque. Voilà. Donc là, les mouvements sont extrêmement difficiles à connaître, mais on sait, par exemple, qu'entre fin 43 et printemps 44, on a plusieurs centaines de juifs qui vont arriver du sud, cette fois-ci. Ils vont arriver du Languedoc, et ils sont placés par le préfet. Donc là, ce n'est pas des arrivées individuelles, hein, c'est une arrivée qui a été encadrée par la police, etc. Et placée par le préfet de la Corrèze dans, entre guillemets, des zones de regroupement surveillées, c'est-à-dire qu'ils sont assignés à résidence. Et il y a deux zones que le préfet a identifiées. Première zone, la zone de Mémac et Gurande-Buja, où 500 juifs sont installés, donc 200 à Mémac, 200 à Gurande et 100 à Buja. Et la deuxième zone, c'est Beaulieu-Bénat-Messac. Mais le préfet précise, pas à Beaulieu, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Voilà, donc ils ont été répartis entre Messac et Bénat à ce moment-là. Donc peut-être celui dont on parlait, ils sont peut-être arrivés à ce moment-là. Voilà. Alors combien, donc du coup c'est assez complexe hein, sur la période de la fin de la guerre. Combien de juifs? On n'a pas de chiffre global et précis de la présence de ces juifs pendant la guerre. On a quelques indices malgré tout. Bon, on sait... qu'à partir de 1941, à partir de juin 1941, avec le deuxième statut des Juifs mis en place par Vichy, les Juifs ont l'obligation de se faire recenser en mairie. Donc on a une indication ici. Et on sait que pour la fin 1942, ce recensement pour la région R5, hein, c'est-à-dire la grande région Limousin plus les départements limitrophes que j'évoquais, il y avait 17 000 Juifs, dont 2301 en Corrèze. Et on précise, donc pour la Corrèze, 1168 juifs de nationalité française et 1133 juifs de nationalité étrangère. Sauf que on sait qu'il y a un nombre assez important qui n'a pas été se faire recenser, parce que certains avaient déjà un peu la puce à l'oreille et se demandaient pourquoi on leur demandait de se faire recenser entre eux comme juifs. On peut estimer peut-être un tiers de juifs qui ne se sont pas fait recenser, c'est ce que les historiens en principe disent. Voilà. Le deuxième indice dont on dispose est un indice complètement farfelu qui date du printemps 1944. C'est un chiffre donné par le préfet, qui est le préfet Trouillet à ce moment-là. Voilà. Celui qui est présent à Tulle au moment du massacre de Tulle. Et au printemps 1944, le préfet Trouillet écrit au préfet de région pour dire qu'il y a 6000 juifs en Corrèze. Bon, ce chiffre est totalement invérifiable et sans aucun doute exagéré. Mais pourquoi ? Pourquoi il donne le chiffre de 6000 juifs ? Parce que quand il écrit au préfet pour lui dire ça, en dessous, il ajoute une demande. Il dit « Je ne veux plus qu'on accepte des juifs en Corrèze ». En gros, il voulait que le département de la Corrèze devienne interdit aux juifs. Voilà, et donc forcément, il a intérêt à gonfler le chiffre. Il n'a d'ailleurs pas eu gain de cause de ce point de vue-là. Bon, donc ce chiffre-là, il est exagéré. Donc, on peut estimer, mais là aussi, je suis prudent, hein, je dis bien, c'est une estimation, qu'il y a, pendant la guerre, au moins 3000 juifs qui sont présents sur le territoire de la Corrèze, en sachant qu'il y en a qui arrivent après, qu'il y a d'autres qui partent, etc. Mais au moins 3000 juifs, avec donc ces mouvements importants qui ont lieu dans différents sens. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Alors, un nombre important est regroupé dans ce qu'on appelle les GTE, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Les GTE, ce sont les groupements de travailleurs étrangers. Ça, c'est un système qui a été créé par le régime de Vichy dès l'été 1940 pour regrouper les étrangers que l'on appelle, entre guillemets, en surnombre dans l'économie nationale. Voilà. Donc, on crée des sortes de camps pour eux. La plupart, ce sont des Espagnols. Hein. Il y a plus de 2500 TE, c'est-à-dire travailleurs étrangers en Corrèze, la majorité espagnole, mais on sait qu'il y a également un nombre assez important de juifs. Et pour ce qui est des juifs, des travailleurs étrangers juifs, eux, ils sont concentrés essentiellement dans deux camps, celui de Soudeil, hein, dont je parlais à côté d'Aigleton, et un autre qui est un camp semi-disciplinaire qui est établi aussi à proximité d'Aigleton.